Est-ce que vous aimez venir à l'église? C'est fun, hein? Woo! On devrait avoir du plaisir et j'ai hâte de partager le message. La semaine passée, on a fait un message dans une série de messages sur la fin des temps. Et on a parlé de quelque chose d'assez sobre, assez sérieux la semaine passée. Nous avons parlé de la réalité de l'enfer. Et je pense qu'en tant que pasteur, j'ai une responsabilité de parler de tout le conseil de Dieu, d'avoir vraiment un équilibre en tout ce que nous enseignons. Et c'était la première fois de toute ma vie dans le ministère que j'ai fait tout un message sur l'enfer. Mais aujourd'hui, on va parler du ciel. Et ça va être bon. Mais avant de parler du ciel, on va faire notre déclaration. Prenez vos bibles ou vos notes et on va faire cette déclaration. Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller avec moi en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous allons parler du ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte d'aller au ciel? J'espère que vous n'avez pas trop hâte, par exemple. Parce qu'on a besoin de vous ici sur la terre pour un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on veut amener le plus grand nombre avec nous au paradis. Vous êtes d'accord? Alléluia. Donc, je veux vraiment donner l'équilibre aujourd'hui. Je sais que qu'est-ce que nous allons voir et dire à propos du ciel, ça va vous donner le goût d'y aller. Mais je veux pas que vous désirez trop d'y aller tout de suite. Hein? Est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez décider de rester un peu plus longtemps? Sinon, je prêche pas ce matin, non? Ça va être bon. Mais qu'est-ce qu'on va voir, c'est que si vous attendez un peu plus, et si vous faites qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, que le ciel pour vous va être mieux une fois rendu. Amen. Donc c'est mieux pour nous que vous restiez et que vous fassiez qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur à faire. Vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour le monde, mais c'est mieux pour vous aussi parce que votre ciel, on va voir que le ciel et notre style de vie au ciel va être déterminé par qu'est-ce que nous faisons ici sur la terre aujourd'hui. Mais en Philippiens chapitre 3 et verset 20, la parole de Dieu dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est que ma cité à moi, et si vous êtes chrétien aujourd'hui, votre cité à vous est dans les cieux. Peut-être vous êtes né au Canada, peut-être vous êtes citoyen selon le monde du Canada, mais vous êtes vraiment, en réalité, citoyen du ciel. Amen. C'est une réalité. Vous êtes citoyen du ciel. Moi, je suis citoyen du ciel. Et là, je sais qu'actuellement, notre Seigneur Jésus-Christ, il est assis à droite du Père au ciel. Mais un jour, bientôt, il va revenir et on va le rencontrer dans les airs. Et nous aussi, nous allons pouvoir, enfin, comme Zacharie a dit, enfin! Enfin, on est rendu! Alléluia! Ça va être bon, n'est-ce pas? J'espère que vous avez hâte. Écoutons, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre et saisir ce matin. C'est que quand on parle de la cité qui est au ciel, il faut savoir, c'est dans vos notes, que c'est une meilleure ville que Dieu lui-même a construite. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien sur la terre qui peut comparer à la beauté du ciel. De notre ville, mon pays, c'est un beau pays. Amen. On sait que le Québec, c'est la belle province. Mais c'est rien comparé à la cité qui est ma cité au ciel. Amen. Regardons qu'est-ce que la Bible dit en Hébreux 11, versets 9 et 10 dans vos notes. Confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise. Il vivait sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob. Ça parle d'Abraham, auquel Dieu avait accordé la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'architecture? Moi, j'aime l'architecture. Moi, j'aime voir les belles bâtisses qui sont bien préparées, bien dessinées, des belles choses. On peut aller en Europe et on voit les cathédrales, et même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe dans toutes les cathédrales, on voit quand même la beauté. Il y a des bâtiments que ça a pris 500 ans. Quand on était à Milan, Tania et moi, une fois, on a vu, parce qu'on habitait en Europe, et on voyait les bâtisses que ça faisait 500 ans qu'ils ont commencé à construire certaines cathédrales et ils n'étaient même pas encore terminés. Après 500 ans, la touche finale n'était pas encore mise. N'est-ce pas quelque chose? Des belles places. Mais ça, c'est rien comparé à la ville dont Dieu est l'architecte. Et Dieu est celui qui le construit. N'est-ce pas bon de penser à ça? Alléluia! Et je veux vraiment qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de cette ville qui nous appartient. Verset 13 de Hébreux 11 dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, comment on dit étrangers, et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » S'ils avaient eux en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Comment on dit une meilleure? C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité. Et pour qui est-ce qu'il a préparé cette cité? C'est pour nous. Et c'est une demeure éternelle. C'est une place où on va demeurer éternellement, qui ne va pas perdre son éclat, mais qui va toujours, pour des milliards et des milliards et des milliards de siècles, toujours beau, toujours agréable, toujours la meilleure place dans l'univers entier. N'est-ce pas merveilleux? Mais trop souvent, nous, en tant que croyants, on est tellement pris dans ce monde, on est tellement, on peut dire, introverti et distrait par les choses de ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été distraits par les choses de ce monde? Moi, je peux dire en premier, souvent, c'est facile, même avec les choses du ministère. On est tellement occupé et préoccupé avec les choses de ce monde qu'on oublie qu'on est des voyageurs et les étrangers et que c'est vraiment temporaire. Tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit ici sur la terre, c'est temporaire. La Bible dit que notre vie sur la terre, c'est comme une vapeur qui va apparaître pour une minute et va disparaître. Mais l'au-delà, la vraie cité de Dieu, c'est une cité éternelle. En fait, la Bible dit en Philippiens chapitre 3 qu'il y a quelques-uns qui marchent comme les ennemis de la croix. Et savez-vous pourquoi Dieu dit qu'ils sont des ennemis? Parce qu'ils ne voient pas plus loin que cette terre. La limite de leur horizon, on peut dire, c'est cette terre. Ils ne voient pas qu'il y a quelque chose dans l'au-delà. Cette vie est passagère. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a ici sur la terre, vous pouvez avoir la plus belle maison. Un jour, cette maison va brûler. Vous pouvez avoir la plus belle auto. Désolé, je sais qu'il y a des personnes qui ont des belles autos, hein. Désolé, mais un jour, l'auto va. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'avoir une nouvelle auto en fin de semaine. Et désolé, mais cette auto va brûler. Ah, ça, c'est décourageant, n'est-ce pas? Non, ça ne devrait pas. Parce que vous n'allez pas manquer votre auto, hein. Et votre auto ne va pas vous manquer. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, on a besoin, je crois, de vivre avec la révélation de la réalité de l'éternité. On est ici, c'est passager. Et on a parlé dans notre série sur la fin des temps, on a dit qu'un jour, Jésus-Christ va revenir, et nous, les croyants, on va le rencontrer dans les airs, et pendant 7 ans, nous serons au ciel avec lui, et l'Antichrist va faire toutes ses affaires ici sur la terre. Ça va être 7 ans de tribulation, 7 ans affreux sur la terre. Et après ces 7 ans, Jésus va revenir avec l'armée de Dieu, c'est nous, et il va exercer jugement contre le diable, l'antéchrist, le faux prophète et tous ceux qui le suivent. Et ensuite, il va s'établir sur le trône de David à Jérusalem. Jésus-Christ va régner. Jésus sera le roi de toute la terre. Il va régner pendant 1000 ans et nous allons régner avec lui. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais après ces 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Après ces 1000 ans, on voit qu'il y aura le jugement, le grand tremblement du jugement. Les morts, les pécheurs vont être jugés, jetés dans les temps de feu. Satan lui-même sera jeté dans les temps de feu. Mais la Bible dit que la terre et les cieux vont être détruits et une nouvelle terre et des nouveaux cieux vont apparaître. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est là qu'on parle de cela aujourd'hui. On parle de notre destinée éternelle. On a dit la semaine passée que la question primordiale pour chacun de nous, c'est où est-ce que vous allez passer l'éternité et avec qui allez-vous passer l'éternité? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui? Où est-ce que vous allez passer l'éternité? J'espère bien que c'est au ciel. Et j'espère que c'est avec le Seigneur Jésus et avec tous ses enfants, avec toute la famille de Dieu. Amen? Alléluia. Alléluia. Mais j'avais à cœur aujourd'hui, parce que la semaine passée, on a donné même 7 caractéristiques de l'enfer. Mais aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de beaucoup plus beau, plus positif même. On va parler du ciel. Regardons dans Apocalypse, chapitre 21. Et on va lire presque tout le chapitre 21 d'Apocalypse aujourd'hui. Une bonne partie. Mais on va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos du ciel. Aimeriez-vous voir où vous allez vivre pour l'éternité? Alléluia. Il y a des personnes qui ont eu les expériences où ils sont morts et ils sont allés au ciel, mais ils sont revenus à la vie. Est-ce que vous avez entendu ces histoires? Il y a aussi des personnes qui sont morts et leur esprit a quitté leur corps et ils sont descendus à l'enfer, mais juste avant d'être vraiment enfermés à l'enfer, ils sont revenus dans leur corps. Et ces personnes peuvent témoigner que ce n'est pas une belle place, l'enfer. Et comme j'ai dit, si on pourrait avoir un écran géant avec une émission en direct de l'enfer, je vous assure que personne quitterait cette salle sans accepter Jésus-Christ. Mais si en même temps, on pourrait avoir un écran géant avec une émission en direct du ciel, imaginons la louange, l'adoration, la musique, les couleurs, la joie que nous verrons. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et je veux qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on médite là-dessus ce matin. En Apocalypse 21, 21, la Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » C'est pourquoi nous savons que, désolé, même si l'auto est belle, même si la maison est belle, même si vous aimez votre jardin et tout le kit, un jour, toutes ces choses vont brûler. Pourquoi? Parce que Dieu va les remplacer avec quelque chose de mieux. Le meilleur s'en vient. Bonne nouvelle. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Tout le monde dit la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Qui s'est préparée pour son époux. Donc on voit qu'il y a vraiment, et ça c'est une autre chose qui est bien intéressante. On peut aller en Israël aujourd'hui. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en Israël. Un jour, j'aimerais. Et un jour, je sais que j'y vais. Un jour. Peut-être c'est après l'enlèvement, mais je sais que je vais aller à Jérusalem un jour. Et vous aussi. Mais moi, j'aimerais aller même de ce côté de l'enlèvement, un jour visiter Jérusalem. Mais quand on va à Jérusalem, on peut voir les peintures que certains artistes juifs ont faites. Et ils ont fait les peintures avec la ville de Jérusalem, ici sur la terre. Mais en dessus, dans les cieux, c'est comme une deuxième ville, une ville céleste. Et qu'est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, actuellement, c'est la réalité? Au-dessus de Jérusalem terrestre, il y a un Jérusalem céleste. C'est une véritable place. C'est pas une farce. C'est pas juste, on compte pas les fables aujourd'hui. Mais il y a une ville, c'est aussi réel que Drummondville. Est-ce que vous croyez que Drummondville existe? Croyez-vous que l'hôtel de ville existe? Croyez-vous que Madame Jutra est vraiment la mairesse de cette ville. On peut la toucher, on peut voir, c'est une véritable place. Laisse-moi vous dire que Jérusalem terrestre, c'est une vraie place aussi, mais Jérusalem céleste, c'est une vraie ville qui existe déjà. C'est une vraie place. Un vrai trône est là. Le Fils de Dieu, avec son corps de os et de chair, est littéralement assis sur le trône dans la ville sainte de Jérusalem. C'est une vraie place. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire même de Jacob, quand il voyait, il avait une vision des anges qui descendaient et qui montaient une échelle. Vous vous rappelez de cela? C'est vrai. C'est vrai. Juste au-dessus. Et ce n'est pas tellement loin. Il y a des personnes qui pensent que c'est des millions et des millions de kilomètres de la Terre. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que juste au-dessus de la Terre, il y a une autre ville qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Il y a des vrais anges dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on les voit? Non. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont proches? Oui. Est-ce que le ciel est loin ou est-ce que le ciel est proche? Le ciel est plus proche qu'on pense. N'est-ce pas? Le ciel est plus proche qu'on pense. Mais il faut qu'on soit plus au diapason de ce qui se passe au ciel. Et il faut que notre esprit soit plus en contact avec ce qui se passe dans la ville sainte que ce qui se passe à Drummondville. Ça, c'est la clé pour nous, de vivre dans la victoire. Mais regardons ces choses. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un jour, cette ville sainte va descendre sur la terre même. Alléluia. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, séparée pour son époux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les caractéristiques de cette ville? Numéro un, c'est une ville remplie de la présence de Dieu. Verset 3 dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que Dieu est avec nous maintenant? Oui, mais c'est différent. Maintenant, on ne le voit pas. Maintenant, on reconnaît sa présence par la foi. Mais un jour, ça ne serait plus par la foi. Dieu lui-même, sa présence tangible, va être tout autour de nous. Des personnes qui ont visité le ciel, il y a des personnes qui sont allées, qui sont revenues. Et ils ont eu les expériences. Et ils disent que c'est une place incroyable, que tout est rempli de la présence de Dieu. Même le gazon, quand on marche sur le gazon, c'est comme s'il y a de la vie dans l'herbe. N'est-ce pas merveilleux? On s'assoit dans une chaise, ils disent, et c'est comme si la chaise est presque en vie. On ressent tellement la présence de Dieu. Et Dieu est quoi? Dieu est amour. C'est-à-dire que partout où on va, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, c'est l'amour. Est-ce que ça vous tente d'y aller? Wouh! Ça va être bon, n'est-ce pas? C'est une ville remplie de la présence de Dieu. Et la louange, et l'adoration. Ah, laisse-moi vous dire, quand vous venez à l'église le dimanche matin, sachez que la louange, l'adoration, la musique, c'est pas juste une chose qu'on fait en préparation pour la parole de Dieu, mais c'est une partie intégrale de qu'est-ce qu'on fait à l'église, n'est-ce pas? C'est une répétition pour le ciel. En fait, je crois qu'on aura plus de louange au ciel que prédication. On n'aura plus ben besoin d'être enseigné ou renseigné, mais on aura toujours besoin de louer et adorer. Amen? Bonne chose. Numéro 2, c'est une ville de joie et de bonheur. Hallelujah. Numéro 4 dit, verset 4 de Apocalypse 21 dit, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Wouh! Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Nous n'aurons plus des bobos, plus besoin des pansements au ciel. Et quand on a 50 ans, on sait qu'est-ce que c'est, hein? Toujours les petites choses sur les genoux et tout, mais là, on n'aura plus besoin de cela. Dieu va essuyer nos larmes, et une fois que nos larmes sont essuyées, pourquoi est-ce qu'il va essuyer nos larmes? Je crois que c'est parce qu'au début, une fois rendu, on va voir qu'est-ce que Dieu a planifié pour notre vie. On a vu toutes les choses que Dieu voulait qu'on fasse. Et c'est sûr qu'il y a bien des gens qui n'auront pas accompli tout le plan de Dieu pour leur vie. Ils vont voir les âmes qui sont perdues. Ils vont voir les choses qu'on a manquées. Il y aura des larmes. C'est pourquoi je veux pas pleurer trop au ciel. Je veux tout faire ici sur la terre avant de me rendre. Et vous? Et l'homme est quand même si on a manqué le coche, il va essuyer nos larmes. Et on n'aura plus de douleur. On n'aura plus de deuil. Ça va être vraiment une vie de joie et de bonheur. Jamais, jamais on va voir des personnes pleurer. Jamais des personnes déprimées. Gloire à Dieu! C'est bon, n'est-ce pas? Numéro 3, c'est une vie de toute beauté. Verset 9 dit, « Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, alléluia, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment les pierres précieuses, diamants, saphirs, les choses de même? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment ça? Il y en a juste deux. Et les autres, je pense qu'il faut prier pour ceux qui ne disent pas la vérité. Hein? Est-ce que c'est méchant d'aimer les pierres précieuses? Non, la Bible en parle. Alléluia. Mais la Bible dit même que comme une pierre précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes et au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur les 12 noms, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, voyez-vous, les murs, les portes, toutes les pierres précieuses et c'est énorme. On va voir tantôt que juste les portes de la ville sont faites d'une seule perle. Imaginez le huître. Hein? Je ne sais pas si ça prend un huître pour faire une perle au ciel, mais imaginons, hein? Numéro 4, c'est une ville immense. Tout le monde dit immense. Ça, c'est bon de savoir que c'est une ville immense. Il y a des sectes qui disent qu'il y a juste 144 000 personnes qui vont vivre dans cette ville, mais ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Est-ce que tout le monde va aller au ciel? Non. Mais est-ce qu'un grand nombre vont aller? Oui. Ça va prendre une place immense. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurera la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesurera la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, et qui était celle de l'ange. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je n'ai pas tous les équivalents en kilomètres, mais on parle des milliers et des milliers de kilomètres de longueur, de largeur et même de hauteur. La ville est immense. Et c'est une vraie ville. Et c'est votre ville. Tout le monde dit, c'est ma ville. Si vous connaissez Jésus, c'est votre ville. Notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Numéro 5, c'est une ville des richesses et d'or. Ou on peut dire même dire d'extravagance. Dieu est un Dieu d'extravagance. Savez-vous? La religion nous a montré que pour être pieux, pour être vraiment saint, il faut être pauvre. Mais ce n'est pas du tout l'image que nous avons de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. El Shaddai, ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia! Quand Dieu a béni le pêche miraculeux des apôtres, ils avaient tellement de poissons que les filets se rompaient. Ils ont rempli deux barques et les barques commençaient à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de trop. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a quelques-uns de vous n'avez pas l'air convaincu que la ville sainte est une belle place. Voulez-vous aller?
Amen.
Alléluia. On veut aller passer l'éternité avec notre Père Céleste qui est un Père d'abondance. Regardons verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Vois-tu? Pour le Seigneur, l'or est comme l'asphalte. Semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. De toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, et le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième de hyacinthe, c'est comme Saint-Hyacinthe, hein? Le douzième d'améthyste. C'est dur à prononcer, mais c'est beau à voir, j'imagine. Hein? Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Ha! Wow! Je pense à ça. Moi, j'ai vu des belles places. On est allé avec Pasteur John et Laura quand on les a amenés à Montréal parce qu'ils avaient besoin de prêcher là. Ils voulaient aller voir quelques places à Montréal. On est allé voir quelques bâtisses. Et laisse-moi vous dire, il y a des belles bâtisses à Montréal. Vous êtes d'accord? Toutes ornées. Wow! Mais c'est rien comparé au ciel. Rien, rien, rien. Alléluia. Verset 6, pardon, numéro 6 dans vos notes. C'est une ville de lumière. Je ne sais pas, dans tout ce que je peux imaginer du ciel, il y a plusieurs choses qui me frappent le plus. Premièrement, c'est que c'est rempli de la présence de Dieu. Mais deuxièmement, pour moi, c'est que c'est une ville de lumière. Ça touche mon cœur de voir cela et de lire cela et de méditer cela. Parce que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. N'est-ce pas bon? Verset 22 dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » C'est qui l'agneau de Dieu? La ville n'a pas besoin, regardons ça, la ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Ça touche mon cœur peut-être plus que toute autre chose. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais quand je pense au fait qu'on a... Est-ce que vous avez essayé, en étant enfant, de regarder le soleil? C'est pas sage, hein? Maman a dit, fais pas ça, tu vas te faire mal. Le soleil est brillant. Vous êtes d'accord? Le soleil est rien comparé à notre Dieu. Wow! Les ténèbres ne peuvent pas exister. Toutes les œuvres des ténèbres, toutes les choses méchantes qu'on peut vivre ici sur la terre, ces choses ne peuvent pas exister dans la lumière de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia! C'est ma ville! Alléluia! J'aime Drummondville, mais franchement, numéro 7, c'est une ville sainte et pure. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire que on n'aura pas besoin de se poser des questions. N'importe qui qu'on rencontre dans cette ville, on sait que c'est une personne digne de confiance. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes dans ce monde qui sont dangereuses. On a des prédateurs qui rôdent comme un lion ici sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais là, on peut avoir une confiance complète. Tout le monde sera digne de confiance parce qu'il n'y aura personne là, sauf ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et ça réjouit mon cœur. Alléluia. Alléluia. Numéro 8, ça va être une ville de santé et de guérison. Jamais plus la maladie. Alléluia. Ça devrait être une raison de pousser un cri de joie. Une ville de santé et de guérison. Il n'y aura pas de chaises roulantes au ciel. Il n'y aura pas de béquilles. Amen. Pas de béquilles, pas de canne, pas de chaises roulantes. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça, c'est l'arbre de vie. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? L'arbre de vie que c'était défendu pour les enfants, pour Adam et Ève de prendre cet arbre de vie quand ils étaient toujours dans l'état de pécheur. Mais là, on va être dans vraiment justifié par le sang de Jésus. Notre nom sera écrit dans le livre de vie et nous aurons droit à manger. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Jamais plus de guérison, jamais plus de... Jamais plus les soins, quoi que ce soit. Une ville de justice et d'équité, numéro 9. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ça va être une place où la justice et l'équité vont régner. N'est-ce pas merveilleux? Numéro 10, ça va être une ville des récompenses et des célébrations. Tout le monde dit récompense. Voici, Jésus a dit, verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Est-ce que vous croyez que Jésus vient bientôt? « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commençant et la fin. Commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux et des cris dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Jésus-Christ revient bientôt et il vient avec sa rétribution. Sa rétribution, c'est-à-dire la colère pour ceux qui ne croient pas, mais les récompenses pour ceux qui croient. Est-ce qu'il y a des croyants ici aujourd'hui? Mais savez-vous, il y a une chose que je veux dire juste pour terminer aujourd'hui. C'est important de savoir que vous avez part dans la vie sainte. Maintenant, une fois mort, c'est trop tard. Une fois que vous avez quitté votre corps physique, c'est trop tard de choisir votre destinée finale. Il faut en choisir maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est un don gratuit. Que celui qui a soif vienne, qui boive gratuitement. Ce n'est pas une chose qu'on peut mériter. La Bible dit dehors les chiens, dehors les hommes méchants. Laisse-moi vous dire que nous étions tous parmi eux. Amen. Personne n'est digne du ciel. On a tous hérité, pas mérité, la ville sainte. Mais que je suis heureux de savoir que j'ai une place réservée pour moi. Mais savez-vous une autre chose? C'est une ville de récompense. C'est-à-dire que mon ciel et votre ciel ne sera pas forcément pareil. Tout le monde va être heureux et joyeux au ciel. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui vont être, on pourrait dire, plus riches au ciel que les autres? C'est vrai, n'est-ce pas? Ah, oh, mais pasteur, ça, c'est pas... Non, on va être tous égaux au ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que Dieu va nous aimer également? Oui. Absolument. Dieu n'a pas de favoris, il ne fait exception de personne dans ce sens-là. Dieu n'a pas des chouchous dans ce sens-là. Amen? Mais il est un Dieu de justice quand même. Et Dieu a dit dans sa parole,
Et on l'a lu en Corinthiens chapitre 3, que nous allons tous apparaître devant le tribunal de Christ, mais là, nos œuvres vont être éprouvées, passées par le feu. Si on a bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, notre récompense va subsister et on va être heureux. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui vont perdre leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils n'ont rien fait selon le plan de Dieu. Ils ont gaspillé leur temps, ils ont gaspillé leur talent, ils ont gaspillé leur trésor, ils ont gaspillé leur temple en faisant leur propre petite vie égoïste ici sur la terre. Et eux autres, ils vont aller, ils vont s'échapper comme quelqu'un qui s'échappe d'un feu. La Bible dit en Daniel chapitre 12 même, tu peux là, voir, je pense que c'est verset 3, si je ne me trompe pas. Daniel 12, 3. Que ceux qui amènent beaucoup à la justice vont briller comme les étoiles pour toute éternité. C'est quoi la meilleure chose qu'on peut faire pour avoir une meilleure résidence au ciel? Amener les âmes au Seigneur. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une chose de plus importante que de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et d'amener les âmes. Est-ce que ça veut dire que Billy Graham va avoir une meilleure place parce qu'il a gagné des millions au Seigneur que quelqu'un qui n'a gagné que 100 personnes au Seigneur? Pas forcément. Parce que à celui qui est donné, à qui Dieu donne beaucoup, beaucoup sera demandé. Ça se peut que Billy Graham a reçu une plus grande onction, un plus grand mandat, une plus grande responsabilité. Et si on ne sait pas combien de personnes il était supposé de gagner. Peut-être il était supposé de gagner 10 milliards, il n'a gagné que 10 millions, on ne sait pas. Ou peut-être il a dépassé qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse, on ne sait pas. Mais si l'essentiel, c'est d'être fidèle à votre tâche, de faire tout ce que le Seigneur vous demande de faire, que ce soit des petites choses, de soi fidèle, d'être fidèle à lui. Amen. Et si le Seigneur ne veut que vous gagnez 100 personnes ou 10 personnes ou élevez 5 champions pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. Amen. Donc, juste pour terminer, quelques 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses, 5 choses que je veux vous encourager à faire, juste pour faire une application de ce message. Parce que c'est bien beau de parler du ciel et de dire oui, c'est une belle place, mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour mettre ce message en pratique? Premièrement, réservez votre place. Est-ce que votre nom est dans le livre de vie? Parce que si votre nom ne se trouve pas dans le livre de vie, vous n'êtes pas citoyen du ciel, vous êtes citoyen des ténèbres, du royaume des ténèbres et vous êtes destiné à aller à l'enfer. Et Dieu ne veut pas que vous passiez l'éternité là. Donc, faites votre réservation. Comment? Tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel seront sauvés. Amen. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et tu auras une place réservée au ciel. Mais on ne sait pas, ça se peut que ça va être une tente au bord du rivière. Et si tu ne veux pas vivre dans une petite tente au bord de la rivière de vie et tu aimerais mieux vivre dans un palais, on ne peut pas juste arrêter là en disant « je suis sauvé, je vais continuer à vivre comme je veux vivre. » Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, deuxième chose qu'on peut faire, en sachant que le ciel est une véritable place, c'est une meilleure place, Dieu est l'architecte, Dieu est celui qui l'a construit, on peut amener la volonté du ciel ici sur la terre. Dieu a dit, Jésus a dit en Matthieu 6, de prier, « Père, que ta volonté soit faite, ici sur la terre comme au ciel. » C'est quoi la volonté du ciel? Que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit joyeux, que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit en bonne santé. Donc, en tant qu'enfants de Dieu qui sont ici sur la terre, on devrait prier, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans ma ville, dans mon pays, ici sur la terre comme au ciel. Et on peut, la ville qui est juste là au-dessus de nous, dans les cieux, on peut amener la volonté du ciel ici sur la terre. Le ciel et la terre peuvent se rencontrer dans votre vie. Amen. Vous êtes la connexion entre le ciel et la terre ici. Est-ce que vous avez entendu? Ça vient du Seigneur. Vous êtes la connexion, la liaison entre le ciel et la terre. Si la volonté du ciel va se faire sur la terre, c'est à travers vous. Amen. Conduisez-vous comme un étranger sur la terre. Ça, c'est une bonne parole. Je vous encourage à lire les versets à la maison. qui sont en parenthèse. Conduisez-vous comme un étranger sur la terre. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre pour les choses de ce monde, au lieu d'avoir mes yeux fixés sur les choses matérielles de ce monde, je devrais vivre avec mes yeux fixés en haut, au ciel. Jésus est là, assis à la droite de Dieu, c'est lui mon but. La volonté du ciel, c'est le plus grand désir de mon cœur. Amen. Alléluia. Je suis étranger, pèlerin, mais il y a trop des gens qui agissent comme s'ils vont être ici pour l'éternité. N'est-ce pas? On a juste besoin de regarder qu'est-ce qu'ils disent avec la bouche, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, qu'est-ce qu'ils font avec leur temps. Et là, on voit que pour eux autres, ils ne voient pas plus loin que cette terre. Mais moi, je vois plus loin, je sais que vous voulez voir plus loin. Nous voyons plus loin que cette terre. Amen. Prochaine chose, amassez-vous des trésors au ciel. Amassez-vous des trésors au ciel. N'est-ce pas bon? Savez-vous, ici, on peut faire des dépôts dans les comptes à la Banque de Montréal, à la Caisse populaire. On peut faire les dépôts, on peut avoir les rires, on peut avoir toutes sortes de gens, des choses pour investir. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour investir notre argent. Mais ça, c'est temporaire. Tout va brûler. Vous êtes d'accord? Mais on a le potentiel, ici sur la terre, de faire les dépôts au ciel. Là où la teigne ne peut pas détruire, le voleur ne peut pas percer, c'est réservé, c'est protégé pour nous au ciel. Qu'est-ce que vous avez envoyé au ciel comme dépôt dernièrement? C'est quand la dernière fois que vous avez fait un dépôt dans votre compte au ciel? C'est une bonne question, n'est-ce pas? En venant à l'église ce matin, vous avez fait un dépôt. À chaque fois que vous aimez votre femme, quand vous vous aimez vous-même, vous faites un dépôt. Amen. À chaque fois que vous partagez l'évangile avec quelqu'un, vous faites un dépôt. À chaque fois que vous faites la volonté de Dieu et que vous obéissez à Dieu, vous faites un dépôt au ciel. Et ces choses sont réservées et ils ne peuvent pas flétrir. C'est réservé et protégé pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Et finalement, fonctionnez comme un ambassadeur du ciel ici-bas. C'est quoi un ambassadeur? Est-ce que vous savez c'est quoi un ambassadeur? Un représentant. Si ma vraie ville, si mon pays est au ciel, si ma cité à moi est au ciel, je suis citoyen du ciel, Jésus est le prince de paix, je suis son ambassadeur, c'est-à-dire je suis son représentant. Le Canada a des ambassadeurs partout dans le monde. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui est citoyen du Canada va quitter le Canada pour vivre dans un autre pays, pour représenter son pays. J'ai vraiment aimé, une fois, bien des années, j'ai lu la définition d'un ambassadeur. Vous voulez savoir c'est quoi qui est écrit dans le dictionnaire? Un ambassadeur, c'est un ministre du rang le plus élevé. OK? Déjà, c'est bon, n'est-ce pas? Tout le monde dit, je suis un ministre d'une nouvelle alliance. Hein, je suis un ministre, dites ça, je suis un ministre du rang le plus élevé. Okay? C'est un ministre du rang le plus élevé qui est employé par un prince ou par un État. OK? À la cour d'un autre prince ou d'un autre État. Vous voyez l'image? Un ministre du rang le plus élevé, employé par son État ou par son prince, pour vivre dans un autre pays et pour représenter son pays auprès de l'autre prince. OK? Mais, il est là pour faire quoi? Pour effectuer les affaires de l'État. Savez-vous quoi? Je suis un ministre du rang le plus élevé. Je travaille pour le prince du pays. Je travaille pour le gouvernement du ciel. Je ne suis pas au ciel, je vis ici comme ambassadeur dans un pays étranger. Et pourquoi est-ce que je suis là? Pour effectuer les affaires du ciel sur la terre. Dieu veut dire quelque chose sur la terre? Nous sommes le porte-parole. Dieu veut guérir les gens? Nous sommes ses mains. Dieu veut aller quelque part? Nous sommes ses pieds. Et tout le pouvoir du ciel se tient en arrière de nous. L'ambassadeur de Canada dit quelque chose un chef d'État dans un autre pays, et si le chef d'État dit, « Oh, je m'en fiche de ce que tu dis, dans le fond, pour qui est-ce que tu te prends? » Attention, tout le gouvernement du Canada se tient en arrière de la parole de cet ambassadeur. Et tout ce qu'il dit va être backé. Amen? Quand on parle, si quelqu'un ou si le diable dit, mais pour qui est-ce que tu te prends? Je vais te dire pour qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Et quand je parle, toute la puissance et tout le pouvoir de mon gouvernement, qui est le gouvernement de ma cité céleste, se tient en arrière de moi. C'est-à-dire que quand je dis au nom de Jésus, sors, les démons doivent sortir. Quand je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, la puissance de Dieu est là. Je ne parle pas à mon nom, je parle au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, on te remercie. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir jouer, Tania, viens. On va prier ce matin. J'ai pris un peu plus de temps, peut-être que d'habitude ce matin, mais écoute, je voulais finir cette série sur la fin des temps. Et avec le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc le temps que nous passons ici à l'église, des fois je pense qu'on est trop pressé. Je veux respecter le temps, mais je ne veux pas manquer non plus qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Juste fermons les yeux, on va prier ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je veux te remercier de la révélation que tu nous donnes, que nous sommes citoyens du ciel. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Et Père, si par chance, il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait sa réservation, peut-être il y a quelqu'un ici qui n'est pas certain à 100% que sa place est déjà réservée au ciel, que son nom est écrit dans le livre de vie, qui ne quitte pas cette salle aujourd'hui sans avoir accepté le don gratuit de la vie éternelle. J'aimerais juste prier avec tous ceux qui veulent être sûrs et certains aujourd'hui, avec tous les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui lèverait la main en disant, « Pasteur, je veux que tu pries avec moi parce que je ne suis pas sûr, mais je veux être sûr. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sauvé de mes péchés. Je veux être né de nouveau, comme la Bible dit. » Je ne t'invite pas à faire partie forcément de la vie comblée de cette église locale, mais je t'invite à faire partie de la famille de Dieu et ensuite tu peux choisir ton église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant « Oui, parce que j'ai besoin de donner mon cœur à Jésus. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de lever la main? C'est important. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant mon Père qui est au ciel. Vois-tu, Jésus a dit que si on a honte de lui dans cette génération, il va avoir honte de nous quand il revient. On n'a pas besoin d'avoir honte de Jésus-Christ. Il est notre sauveur, notre maître, notre ami. Est-ce que quelqu'un d'autre qui lèverait la main? Qu'est-ce que je vais faire? Et encore, j'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit, mais voici qu'est-ce que je ressens. Je vais inviter ceux qui ont levé la main juste de venir ici en avant de prier. Je sais que ça peut être un pas de la foi, mais c'est important. C'est important. Parce qu'en faisant ça, tu dis, je n'ai pas honte de Jésus. Jésus n'aura pas honte de moi. Ton nom, c'est...
C'est déjà une extension de voix.
C'est pas grave. On va prier pour toi dans une minute. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à cette femme? Vois-tu, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on sait que son nom va être écrit dans le livre de vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, elle peut être sûre et certaine qu'elle est citoyenne du ciel. Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de la rejoindre? Sinon, on va tous prier cette prière. Je vais te demander de prier cette prière. On va juste fermer les yeux et répéter après moi. Père Céleste, je m'approche de toi, au nom de Jésus, et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Maître. Je sais qu'il est mort pour moi, pour mes péchés. Je sais qu'il est ressuscité. Et je crois de tout mon cœur que grâce à lui, je suis sauvé. Tu es mon Père, je suis ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre Je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir dans le Seigneur? Amen. Alléluia. Dieu est bon. Parce que ça prend beaucoup de courage. Ça prend du courage pour une personne de venir en avant comme ça. Et c'est pas tous les jours que je demande aux gens de venir. Je vais jamais être à mon cœur.